Bienvenue à Les Affaires Brassicoles, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag.
Alors, Philippe Roy, je suis directeur général de l'Association des brasseurs du Québec.
Excellent. Écoute, Philippe Roy, en premier lieu, merci beaucoup pour l'entrevue parce que, comme je disais avant l'entrevue, on a envoyé des courriels à nos lecteurs. Ils ont été comme, ils veulent écouter ce podcast-là parce que pour les autres, l'IBQ, c'est comme une espèce d'organisme secret que vous donnez les mains, que vous avez vos avions à vous autres, tout le kit, c'est ça qu'on ne comprend pas vraiment, pourquoi. So, pour comprendre un petit peu, c'est quoi l'ABQ et c'est quoi votre travail, mais en premier lieu, comprendre un peu, c'est vraiment votre travail à vous autres.
Bien, l'Association des brasseurs du Québec, donc, c'est l'association qui... On a trois membres brasseurs, qui sont Sleeman, Labatt et Molson. À eux trois, les trois brasseries représentent un peu plus de 90% de la bière qui est produite et vendue au Québec. Alors... Nous, notre rôle à l'Association des brasseurs du Québec, c'est d'être un peu leur porte-parole, ben, un, pour les médias, mais aussi, surtout, avec le gouvernement. Donc, les gouvernements, en fait, je devrais dire, parce qu'on travaille autant avec Québec qu'avec Ottawa, que de plus en plus avec les villes pour des questions de zonage. Alors, on est un peu leur représentant en affaires gouvernementales, un peu comme la MBQ fait pour les micros.
Excellent. Est-ce qu'il y a une question, je pense que vous êtes vraiment des lobbyistes ou vraiment vous êtes vraiment un organisme plus de communication?
On fait les deux. On est des lobbyistes. On doit être enregistré au registre du lobby au Québec et à Ottawa dans les deux cas. Donc, on est des lobbyistes, mais on fait aussi de la communication.
OK, mais vous avez aucune, vous êtes vraiment comme, vous avez aucune droit de politique, vous autres, vous n'avez pas comme, c'est pas vous autres qui donnez, vous amenez vraiment l'information aux brasseurs, ou c'est les brasseurs que vous amenez ça,
ouais,
vous autres,
l'information. Oui. Mais on travaille conjointement avec évidemment avec nos trois brasseurs, et on est membre d'un organisme plus grand, qui s'appelle Bière Canada. Alors, Bière Canada est l'équivalent de l'Association des brasseurs, mais pour tout le Canada. Alors, à titre de directeur général, je suis aussi vice-président de Bière Canada, qui est à Toronto. Et nous, on fait... Là, il y a beaucoup de représentations auprès du gouvernement fédéral.
C'est quoi la différence entre les deux? C'est parce que nous autres, je sais que la Association des brasseurs amateurs du Québec, la MBQ, excuse-moi, ils ont aussi une association canadienne, eux autres. C'est quoi la différence entre les deux associations, vous autres? Je sais que c'est fédéral, provincial, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une différence politique, une différence d'agenda?
Non, on a à peu près les mêmes agendas, qui est de défendre, de promouvoir et de défendre les intérêts des brasseurs. C'est juste qu'à à Toronto, ils se spécialisent plus sur tout ce qui est fédéral. Alors que nous, à Montréal, on se spécialise plus à tout ce qui est Québec.
C'est quoi les plus gros problématiques pour les gros brasseurs? Souvent, dans la tête de beaucoup de microbrasseries ou d'amateurs de bière, vous n'avez aucun problème. Tout va bien pour vous autres, mais malgré ça, vous avez quand même beaucoup de problématiques. Nous, on en parle souvent, que ce soit le fait des bouteilles, les cannes, c'est la main-d'œuvre contre tout le monde, tout ça. C'est quoi les plus gros problèmes qui existent, les plus gros défis qu'on peut dire pour vos membres au Québec?
Bien, c'est une bonne question. On a plusieurs gros enjeux. Je dirais que le premier enjeu, et ça touche autant les micros que les grands brasseurs, c'est que la bière, on voit un déclin à chaque année de la consommation de la bière au Canada ou au Québec, dans les deux cas. Faut savoir que la bière, c'est encore la boisson alcoolisée la plus bue au Canada. C'est encore le breuvage alcoolisé le plus populaire auprès des Canadiens, mais pas au Québec. On est la seule province dans tout le Canada où la bière arrive deuxième. On est derrière le vin. Ça s'explique évidemment parce qu'on a une société d'État qui fait énormément de promotion du vin, la SAQ. Alors, donc, un de nos enjeux, c'est de voir comment on peut freiner ce déclin-là qu'on voit chaque année de la bière. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ce produit-là, lui redonner certaines lettres de noblesse. On voit que les microbrasseries, il y a eu comme une très... Ben, on le sait, là, il y a eu vraiment un phénomène microbrasserie au Québec depuis 10 ans. Ça, évidemment, ça a redonné beaucoup une image très positive auprès d'une nouvelle génération des bières. Ça, faut s'en réjouir, mais là, il faut voir comment on peut poursuivre là-dedans pour que les parts de marché demeurent, parce que c'est ça qui est le plus important.
Oui, mais les défis aussi qui existent, que moi je vois ça dans les mouvements Molson, au Sleeman, tout le monde. On voit les gros investissements que vous faites aussi dans le RTD, le prêt à
Ouais.
boire, l'eau, tout ça. Est-ce qu'au Québec, c'est le même reflet que ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que c'est un reflet pareil que ce qui se passe ici?
Ouais, le phénomène des prêts à boire, c'est un phénomène qu'on constate ici. Et effectivement, on voit que les brasseurs ont été plus vite que d'autres compagnies alcoolisées pour prendre le marché. Donc ça aide parce que on dit que les parts de bière diminuent, mais les revenus demeurent les mêmes. Donc, ils réussissent à pallier avec des produits comme celui-là. Donc, on pense à Visi, qu'on pense à White Claw, tout ça, c'est des produits qui viennent compenser. Un autre phénomène qu'on voit, qui est plus récent, mais qui est vraiment là, c'est le non-alcoolisé. Ça, c'est pour le Québec, c'est assez nouveau, alors que dans d'autres pays, ça fait longtemps que c'est déjà très ancré. Vous savez qu'au Portugal, 40% de la bière vendue au Portugal, elle est non-alcoolisée,
Que la bière
qui consomme là-bas.
je sais qu'il y a une bière distribuée de Portugal ici non alcoolisée, est-ce que c'est celle-là?
Ah, je ne sais pas, mais nous, au Canada ou au Québec, la bière alcoolisée représente 3 %, 4 % des parts de marché. Au Portugal, c'est 40. Alors,
C'est quand même énorme.
c'est énorme. Alors, on voit qu'il y a un potentiel, il y a une demande vers des produits soit non alcoolisés, soit beaucoup moins alcoolisés, légers. Alors, ça va promettre un des prochains trends qu'on va voir, des prochaines tendances qu'on va voir ici au Québec.
Oui, c'est vrai, parce que nous autres, on voit beaucoup, tout le monde voit l'augmentation des ventes sans alcool, mais c'est vraiment dans des petites périodes, que ce soit le sens de la 28 jours sans alcool, au Canada, le Sober January, où des fois, le monde va boire ça en été, mais nous, on voit les ventes augmenter de RTD, tout ça. Il y a une question que je vois souvent avec vous autres, c'est que vous êtes vraiment très fort à travailler, à mettre du temps sur les taxes. C'est quelque chose que vous avez, je vois beaucoup de courriels de votre part, vous envoyez beaucoup. C'est quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Pour nous parler un petit peu de l'enjeu des taxes que vous voyez, tout ça, parce que c'est sûr que les taxes, ça paye tout le monde. C'est tout le monde, la problématique est tout le monde, c'est même défi pour microbrasseur ou le gros brasseur. Vous autres, c'est différent, vous êtes dans une autre catégorie c'est plus haut que ça. Mais pourquoi les taxes, c'est si important pour vous
Ben
autres?
en fait, c'est pas juste nous, c'est tous les produits alcoolisés. Il faut savoir que le Canada, dans les pays du G7, donc dans les 7 pays les plus industrialisés et les plus riches, le Canada est le pays qui taxe le plus l'alcool. On ne parle pas juste de la bière, on parle des spiritueux, on parle du vin. Alors, quand on achète au Canada un verre de bière ou une bière, 48 % du prix qu'on a payé va dans les taxes. C'est le plus, donc c'est la moitié. C'est énorme. Alors, aux États-Unis, c'est à peu près 15 % du prix qui va dans les taxes. Donc, ce que nous, on demande depuis longtemps, c'est de ralentir ou de diminuer le fardeau fiscal sur les produits alcoolisés. Au Québec, ça va assez bien. Depuis, le gouvernement Legault a gelé les taxes sur l'alcool depuis plusieurs années et encore cette semaine, au budget, ils ont reporter ce gel de taxes-là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle au Québec. Mais à Ottawa, on livre une grande, grande bataille parce qu'à Ottawa, le gouvernement Trudeau a créé un système qui fait que les taxes augmentent à chaque année en fonction de l'inflation. Alors, quand l'inflation était à 1,5, 1,8, ça allait. Mais là, on sait ce qui est arrivé depuis un an avec partout dans le monde. Donc, là, la taxe devrait augmenter de 6,5 %. C'est énorme. On parle d'à peu près 50 millions de dollars de plus de taxes pour toute l'industrie brassicole partout au Canada. Alors, on fait présentement une très, très grosse campagne auprès du gouvernement Trudeau pour leur demander de geler cette taxe-là cette année, puis d'attendre que le taux d'inflation revienne à un niveau normal, autour de 2 % pour recommencer les hausses de taxes. Donc, c'est ça que vous avez vu dans les médias. Là, on fait vraiment une très, très grosse campagne partout, coast to coast, comme ils disent à Toronto. On demande, on va le savoir la semaine prochaine. C'est le budget de Mme Freeland mardi prochain.
Est-ce que vous pensez qu'il y a que ça peut affecter beaucoup votre l'industrie brassicole? Je sais que pour les petites brasseries, pour eux autres, ça peut affecter beaucoup la montée de taxes comme ça. C'est, on passe souvent avec des brasseurs du Canada en complet, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada. Est-ce que vous voyez vraiment que ça peut affecter vraiment fort l'industrie en soi ou uniquement sur le côté monétaire en arrière de ça?
Non, ça va affecter l'industrie. Il y a beaucoup de brasseries qui avaient prévu des investissements. Et lorsque là, ils n'ont pas de prévisibilité à savoir dans les prochaines années, qu'est-ce qui va arriver, les gens deviennent frileux puis ils ne veulent plus investir. Alors, on a des dossiers de brasseries dans les Maritimes ou en Ontario où ils avaient prévu d'investir pour améliorer leur équipement. Et là, à cause d'une augmentation possible de 6,5 %, ils mettent tout sur la glace puis attendent de voir. Donc, ça a un impact. Puis ça n'a pas juste un impact pour l'industrie brassicole, ça a de l'impact pour les bars, les restaurants. Vous savez, la bière de tous les produits alcoolisés, c'est celle qui a été le plus touchée par la pandémie. La bière, c'est un produit qui est festif. On boit ça lors des festivals, on boit ça dans les bars, dans les fêtes. Alors, c'est tout ça qui a été frappé. Les gens pouvaient continuer à boire leur bouteille de vin chez eux pendant la pandémie, mais le Centre Bell à Montréal ou le Centre Vidéotron à Québec, ben, ils étaient fermés. Puis les festivals, eux, étaient fermés. C'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de consommation de bière. Alors, ce qu'on demande au gouvernement canadien, c'était de nous donner un moment de répit, nous, mais aussi le milieu de la restauration, le milieu des bars, le milieu des festivals.
J'ai vu, ben, pendant la pandémie, puis encore pas de la pandémie, j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'efforts pour aller chercher de aider les restaurateurs, tout ça. Vous avez fait votre grosse campagne pendant la pandémie. Je voyais, j'ai reçu un courriel avec plein de restaurateurs un peu partout au Canada qui se parlaient entre eux autres. Comment ça a été pour l'industrie, pour la ABQ, vos membres, vous autres? Comment ça a été la pandémie pour vous autres? Parce que quand même, vous avez fait beaucoup vous avez vu beaucoup de publicité, beaucoup de marketing, vous avez beaucoup d'initiatives intéressantes à travers le Canada. Comment ça a été en soi, toute l'industrie?
Bien, comme je vous ai dit, c'est vraiment notre industrie, l'industrie de la bière, qui a été la plus touchée pendant la pandémie. Plus que le vin, plus que le gin, plus que les distilleries. C'est nous qui avons eu la plus grande perte de marché. Alors, ça n'a pas été une bonne période, mais là, on voit les chiffres sortir et on est en train de revenir à un niveau pré-pandémie en termes de consommation. Donc, ça, c'est bon signe pour l'industrie au Québec.
Est-ce que vous croyez que ça va continuer à augmenter ou ça va rester, comme vous dites, le vin va continuer à augmenter, tout ça? Moi, je suis surpris que Molson ou vos membres ne sont pas lancés dans le vin. J'ai vu Molson qui s'est lancé dans le whisky en Inde et aux États-Unis. J'en ai vu quelques bouteilles
Ouais.
passer.
Je pense que le souhait des brasseurs, c'est vraiment de rester focus sur leur industrie qui est la bière. On voit qu'il y a eu une époque où la batte, il était dans de la nourriture, dans plein de trucs. Je pense que maintenant, les brasseurs veulent rester là où ils sont bons et ils se concentrent sur leurs produits brassicoles.
Vous, c'est sûr que la BQ, vous représentez 90% des ventes au Canada. Il y a les microbrasseurs qui sont à côté de ça. Il y a la question que je me pose souvent, c'est comment pour vivre ensemble? Parce que ça, c'est la question. Vous devez aller chercher vos parts de marché. Les microbrasseurs vont chercher des parts de marché. Vous avez quand même vos membres vont investir dans Trousia, le Brasseur du Monde, Creemore, puis aux États-Unis, tu vas les autres brasseries, tout ça. Comment vous voyez, vous autres, le tout de l'industrie? Parce que l'affaire, c'est que souvent, si on traîne les tablettes, tout ça, aller acheter des places dans le fût, tout ça. Comment on fait pour vivre ensemble dans un marché qui est très compétiteur? Comme vous dites, le monde, de moins en moins boit de la bière, ça va dans d'autres produits. Vous avez quand même la chance d'avoir d'autres produits en ça. Mais comment on fait pour vivre ensemble dans toute cette machine-là?
Bien, de notre côté, c'est un mythe de dire qu'il y a un problème entre les micros et les grands brasseurs. Moi, quand je parle à des gens au gouvernement, je parle au nom de l'industrie brassicole sans faire de différence. On a les mêmes problèmes, les mêmes enjeux. On vit les mêmes révolutions. La canette versus les bouteilles, la réforme. De la taxation sur l'eau, les taxes. Donc, on vit les mêmes problèmes. Et moi, chaque année, je suis invité au congrès de la MBQ à Québec et j'y vais avec grand plaisir. Je suis présent. Pour moi, on est toute la même famille. On est toutes fiers du même produit qui est la bière. Et on se réjouit des grands brasseurs du fait que les micros, l'espèce de vague de micros qu'on a vu apparaître, des micro-brasseries partout au Québec, dans les plus petites villes, tout ça, c'est bon parce que ça donne une belle image à la bière. Donc, oui, il y a une guerre commerciale. Puis, il n'y a pas juste une guerre commerciale entre les gros et les petits. Il y a une guerre commerciale entre les gros eux-mêmes. La Bat, Molson, Slimane, ils ne se font pas de quartier pour les parts de marché. Donc, oui, il y a une guerre commerciale. Mais une fois qu'on parle du produit puis qu'on fait de la représentation auprès du gouvernement, on parle tous ensemble de la même voix.
C'est la question que j'allais me poser. Comment ils font pour vivre trois grosses compagnies comme ensemble dans une association? Parce que c'est quand même des compagnies qui ont des philosophies différentes. C'est ça, que ce soit Molson avec Six Pints ou Labatt avec leurs idées quand ils embarquent quelqu'un d'autre. Comment vous faites pour que tout le monde soit ensemble? Parce que quand même, c'est du monde très agressif dans le marché. Au Canada, on voit moins la guerre en ligne, mais tu sais, la guerre médiatique, mais aux États-Unis. Qu'est-ce que je suis là-bas, c'est une guerre impressionnante. Comment ils font aussi pour vivre ensemble?
Nous,
Dites-moi.
quand il y a on a une rencontre à chaque semaine avec les brasseurs, là, on a un board, un conseil, et ils n'ont pas le droit de parler de commercial. Donc, c'est aussi clair que ça. Il n'y a jamais, jamais de discussion qui porte sur le marketing, sur le commercial. C'est pas ça. On parle d'enjeux de l'industrie. On parle d'enjeux gouvernementaux, municipaux. On parle de la consigne. On parle de tous les nouveaux dossiers. Mais on ne parle jamais, jamais, jamais de commercial.
Donc, c'est comme l'argent de l'Église, on laisse
Voilà,
ça dehors,
voilà. Mais on peut boire de la bière dans l'église, nous.
peu près.
mais bon, ça va assez bien.
Un des problèmes que tout le monde a ici, c'est le problème de travail, des travailleurs. Il manque du staff, tout ça. Comment ça va, vous autres? Comment vous faites pour continuer là-dessus? Parce qu'il manque du staff partout, que ce soit dans tous les niveaux, partout. Comment ça fonctionne chez vous? Je sais que vous êtes en grosse recherche de brasseurs tout le temps, de distributeurs, tout ça. Qu'est-ce que vous
Ben,
faites? Est-ce que vous
on
avez des
n'est pas
candidats?
différent des autres. Partout au Québec, on a une pénurie de main-d'œuvre. On la vit nous aussi. Il y a eu un conflit syndical chez Molson il y a un an. Et ça s'est résulté par une augmentation salariale, évidemment. Alors, je pense qu'il faut être attrayant au niveau salarial pour conserver le monde qu'on a. Juste la nouvelle brasserie à Molson, c'est 500 personnes qui travaillent là chaque jour, là. Il y a du monde qui rentre là. Alors, c'est la même chose à Labatt ou à Slimane, Unibrew. Alors, il faut être compétitif, il faut offrir ce que les gens souhaitent avoir comme condition, mais on vit le même problème. Partout au Québec, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre.
Est-ce que vous voyez ça comme un frein à la, tu sais, à grossir avec ça, avec le manque de
C'est
main-d'œuvre,
certain,
tout ça?
oui. Oui.
Parce que je sais que vous faites beaucoup d'automatisation, comme beaucoup de brasseries qui s'en viennent à l'automatisation. Est-ce qu'à long terme, vous voyez les brasseurs de plus en plus automatiser leur production pour bien fonctionner plus, mais
Ça, c'est
mieux dans tout
sûr
ça?
que l'automatisation est un des nombreuses solutions au problème de main-d'œuvre. À la nouvelle usine, je reviens souvent à l'usine de Molson parce qu'elle est neuve, là, mais c'est sûr que là, ils ont beaucoup, beaucoup informatisé. Mais il faudra toujours avoir quand même du monde qui fait le contrôle de qualité. Il faudra toujours des chauffeurs pour les camions. Il y aura toujours besoin de monde. Alors, c'est sûr que c'est un enjeu.
Je comprends que j'ai vu un camion qui était, je pense que c'est Budweiser qui avait fait une publicité avec un camion sans
Ah, ben, il n'y en a pas
moteur.
au Québec, en tout cas, encore. C'est pas permis, mais il y en a
Non, mais
peut-être aux États-Unis.
il y a 2 ou 3 ans, hein, qui avait fait comme le trip, le voyage. Je ne sais pas qu'ils ont un kilomètre, il avait fait comme transporter toute la bière, mais il n'y avait pas de
Est-ce qu'ils
conducteur.
descendent la bière dans le back store du bar? Je ne sais pas.
Je sais pas, ça c'est l'affaire, c'est intéressant. Vous autres, c'est sûr que Les tendances qu'il y a eu de Molson, là-bas, tout le monde, c'est d'acheter des microbrasseries, c'est la tendance qu'il y avait ça. Ça fait quelques bouts de temps que ça s'est arrêté un petit peu. Il y a de la concentration des produits qui ont été achetés. Est-ce que Molson, Labatt, puis Slimane, c'est quelque chose qui s'en vient encore à eux autres, une tendance d'aller chercher des nouvelles des brasseries pour aller chercher des marchés comme ça? Ou c'est pour l'instant, c'est encore. On essaie de passer à travers la fin de la pandémie?
Moi, je pense que, ben, effectivement, chacun des grands brasseurs a acheté ou s'est associé avec des micros dans les dernières années. On l'a vu, Québec, à Labatt, a fait ça avec Archibald, puis Slimane a toujours été avec Unibrew depuis longtemps. Alors, oui, c'est une réalité. Je pense que les brasseurs veulent offrir des portefeuilles de bières variées. Donc, ils veulent leur bière classique, ils veulent la premium, puis ils veulent la micro pour parler à tous les groupes de consommateurs. Est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre? J'ai aucune idée.
Okay. C'est quoi les plus grosses tendances que vous voyez dans la microbrasserie au Québec pour les gros brasseurs ou même selon vous, si on parlait du vin, on parlait du RTD, tout ça, mais c'est quoi les plus grosses tendances qui s'en viennent selon vous qu'on devrait aller checker derrière ça?
J'ai mal compris la question.
C'est quoi les plus grosses tendances qui s'en viennent dans la microbrasserie, vous voyez, ou dans la brasserie en soi?
Bien, les nouvelles tendances, écoutez, il y a évidemment, on en a parlé tout à l'heure, le 0%, il y a les prêts à boire, il y a la canette. Canette, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a 10 ans, la majorité des contenants de bière étaient des bouteilles, et c'est du 80% bouteilles, et là, maintenant, les bouteilles sont rendues à moins de 20%. Alors, il y a une réalité, il y a une réalité que le consommateur a l'air de préférer la canette. Ce n'est pas une question de coût. C'est moins cher une bouteille qu'une canette, mais il y a une tendance dans le marché. C'est sûr aussi que les détaillants préfèrent la canette, c'est plus facile pour eux. Ils ont plus, pour, ils ont,
La
une
consigne,
fois que la
ouais.
consigne rentre dans la gobeuse, c'est beaucoup plus simple pour eux que de mettre ça dans leur entrepôt en arrière. Donc, il y a une réalité pour la canette présentement. Ça, c'est un des enjeux qu'on vit. Puis on le voit chez les micros, qu'ils commencent doucement, beaucoup traversent leur ligne de production vers de la canette.
Ouais. Tout le monde, pas mal. Tout le monde, je vois, c'est rare que je vois à part quand ils font des affaires. C'est qu'ils font des produits comme des gros porters ou des affaires barriquées, des affaires comme
Ouais.
ça va comme ça, tu sais. Est-ce que vous pensez si c'est quoi ma question vraiment? La question que le monde me pose tout le temps. Est-ce qu'il y a une façon pour que les gros brasseurs puis les brasseurs, les micro-brasseries puissent se parler puis travailler ensemble? Est-ce qu'il y a une façon de le monde puisse vous contacter puis parler puis voir? C'est souvent la discussion, comprendre un peu la réalité. Est-ce qu'il y a une façon de. Qu'un jour la MBQ puis la MBQ puissent un jour se parler de toutes les problématiques
Bien, en
qu'ils ont.
fait, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Sur une base régulière, je dirais 2 fois par mois, moi, je parle à la présidente de la MBQ, Marie-Ève Mirand. On discute des enjeux. Quand on fait des événements à Québec, on s'invite. Alors, on travaille déjà ensemble. Est-ce qu'on est d'accord sur tous les dossiers? Non. Mais sur les grands enjeux, on est solidaires et on travaille ensemble. Donc, c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça et moi ça fait déjà, je suis arrivé en 2021, donc c'est dans ma deuxième année. C'est mon intention de rester très près de la MBQ puis de travailler avec eux. On n'est pas des adversaires, on parle du même produit puis on veut valoriser ce produit-là. Puis je vais en profiter. Bière Canada a fait faire une étude par Léger Marketing il y a 2 ans sur la notoriété de la bière au Canada. Alors, dans chaque province, ils ont donné des noms d'entreprises, des bannières comme Canadian Tire, Tim Hortons, Lululemon, donc des bannières connues. Ils ont donné aussi des produits, le sirop d'érable, le bœuf canadien, le whisky canadien, le ice wine, la bière, tout ça. Puis là, ils demandaient dans chaque province aux gens de dire qu'est-ce que les gens préféraient. Puis là, je vais vous parler des résultats du Québec. Au Québec, sur les 15 produits ou noms d'entreprises que les gens avaient à choisir, la bière est arrivée deuxième, la plus aimée. Alors, le numéro un, c'était le sirop d'érable. Le sirop d'érable a gagné. Of course, on ne peut pas battre le sirop d'érable. Mais en deuxième place, ex aequo, c'était la bière du Québec et Hydro-Québec. Alors, c'est là qu'on voit à quel point la bière est un produit où les gens sentent que c'est un produit d'ici, c'est un produit québécois, c'est un produit. Vous savez, 90% de la bière que mes brasseurs vendent, elle est produite ici dans des brasseries ici, là. C'est pas de la bière qu'on fait venir d'ailleurs. Elle est conçue au Québec par des Québécois. Alors, les gens savent ça, les gens reconnaissent ça, puis les gens sont très fiers de la bière du Québec. Alors, ça nous a beaucoup fait plaisir quand on a eu les résultats de ce sondage-là.
Est-ce que vous, tu sais, nous autres, des fois, on voit beaucoup de ventes agressives de Molson, tout ça, c'est normal, c'est les ventes, les stunts, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pousser de plus en plus? C'est quelque chose que le monde va pousser là-dessus pour aller chercher d'autres parts de marché?
Ben là, si vous faites allusion à des démarches pour avoir plus de place dans des une épicerie, admettons, ben ça, c'est des guerres commerciales. Ils font entre eux, ils font contre, peut-être contre les micros aussi. C'est des guerres commerciales et puis ça, c'est une réalité. Je veux dire, Pepsi et Coca-Cola doivent se faire la même chose entre eux pour leurs produits. Donc, y aura toujours, puis c'est sain, là. C'est sain de voir des entreprises se battre pour des parts de marché. C'est comme ça que ça les, c'est ça qui les oblige à avoir des bons produits puis à être performants. Donc, ça demeure. Mais je reviens à votre commentaire tout à l'heure. Pour ce qui est des micros, nous, on continue à travailler main dans la main avec l'association des micros, puis ça va très, très bien notre relation.
Ben excellent. Mais écoute, Philippe Roy, merci beaucoup pour votre temps ce matin. J'ai beaucoup de questions d'autres, mais je veux que le monde écoute ça puis puisse m'envoyer des questions. Je vais les envoyer à vous autres si on les
Ou s'il y a d'autres
questions.
questions, on refera une autre entrevue dans un mois ou deux.
S'il vous plaît. Mais merci beaucoup
Merci
encore, hein.
beaucoup,
Bon week-end.
Leonardo, au plaisir.